Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Le témoin de ce vendredi, Olivier Le Carrère, un enfant sur les pas des grands navigateurs.
Un tour du monde sans escale, 8 mois tout seul, ça n'avait jamais été fait, tout seul avec tout ce que ça représente, tout ce qu'il y a autour de ce tout seul, vous voyez, la bouffe, la fatigue, la tension nerveuse.
Entre l'été 68, l'occupation de Prague, et le printemps 69, le départ du général de Gaulle, bien des événements attiraient l'attention. En outre, les amateurs de nautisme, moins nombreux qu'aujourd'hui, étaient aussi moins informés. Et en France, du moins, ils fixaient par priorité leur attention sur Éric Tabarly. Mais Francis Chichester avait suscité également l'admiration après être rentré d'un tour du monde en solitaire de 226 jours. Quelques admirateurs du geste décidèrent de faire mieux encore en supprimant l'escale qu'ils s'étaient permise à Sydney. Le Sunday Times imagina de les rassembler sous son égide. Ce serait le premier Golden Globe. L'événement que crée l'hebdomadaire n'en est pas vraiment un. Il n'y a ni engagement, ni règlement parfaitement formalisé. Chacun des 9 fous navigants qui amènent sa drôle de machine sur la ligne de départ peut élire le port de son choix du moment qu'il est situé au-delà de 40 degrés de latitude nord. Il peut choisir pareillement la date à laquelle il s'élance du moment qu'elle se tient entre le 1er juin 68 et le 31 octobre. Seulement toléré par les autorités maritimes, le Golden Globe apparaît alors à certains comme une tentative de meurtre avec préméditation. D'autant que tel ou tel des concurrents, il faudrait dire plutôt des partenaires d'expédition, sont de vrais débutants. On en a vu un qui s'était extrait du port avec une apparente dignité, mais une réelle difficulté. Et ensuite, il a sorti des photos de sa cambuse pour voir comment il fallait disposer les voiles dans des circonstances un peu compliquées. Notre témoin, Olivier Le Carrère, est maintenant un navigateur autrement mieux formé. À l'époque, il avait 13 ans. Il a suivi avec passion cette première. Et sans refaire certes la totalité des parcours par les trois caps, Bonne-Espérance, le Wynne au sud de l'Australie et Horn, il a pris plaisir à flâner dans les pubs des ports de départ et à retrouver les positions des uns et des autres qu'il avait eu tant de mal, adolescent, à identifier sur son planisphère.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Olivier Le Carrère, bonjour.
Bonjour.
Et vous en avez tiré un livre qui est publié aux excellentes éditions Paulsen sous le titre 69, année héroïque. On va introduire en faisant un pas de côté ou un pas plus haut, mais il y a un lien aujourd'hui, Pesquet à Méry, alors tout le monde en parle. Quand le Golden Globe numéro 1 voit son unique concurrent arriver à la fin, nous sommes au printemps 1969 et c'est à peu près concomitant avec l'amérissage d'Apollo dont on parle bien davantage.
À 18h01, heure française, Apollo 9 amérissait avec une étonnante précision. Quelques minutes après cet amérissage, impeccable, des hommes grenouilles lâchés par des hélicoptères nageaient autour de la capsule, comme nous le confirme Jean-Claude Héberlé, qui a suivi pour nous cette expérience Apollo 9.
En arrivant sur le pont du porte-avions, James McDivitt, le commandant de bord d'Apollo 9, n'a pas caché qu'après 152 révolutions autour de la Terre, après quelques acrobaties dans le module lunaire, après la rentrée dans les couches denses de l'atmosphère, l'impact sur l'océan, sans doute le mal de mer dans la cabine flottante et puis aussi dans le canot pneumatique, enfin une dernière acrobatie dans la cage qui le remontait vers l'hélicoptère, il n'était pas mécontent de retrouver sur le pont du porte-avions Guadalcanal quelque chose qui ressemblait au plancher des vaches.
Or le mal de mer, vous me direz qu'il y a peut-être, Olivier Le Carrère, d'autres liens entre une expédition comme celle d'Apollo et une course comme celle que vous allez nous raconter.
Oui, c'est très intéressant d'écouter cette archive parce que précisément c'est une mission précédente du programme Apollo, Apollo 8, qui avait beaucoup impressionné un des concurrents de cette course. Il avait capté par hasard à la fin décembre 68 la nouvelle du parcours d'Apollo 8 sur sa radio qui pourtant fonctionnait fort mal. Et ça l'avait plongé dans un abîme de réflexion, c'était Robin Knox Johnston, et qui s'était dit à ce moment-là, mais c'est incroyable, ces gars-là sont en train de faire avancer la science, risquent leur vie pour ça, et moi, qu'est-ce que je fais à traîner sur un bateau lent autour du monde, je ne fais rien pour la science.
Et moi, adolescent de 13 ans, à Boulogne-Billancourt, sur les rives de la Seine, qui jette des regards éblouis, peut-être, vers les capsules spatiales, et puis aussi vers les bateaux qui partent au loin, de quoi je rêve ? Comment étiez-vous à 13 ans ? Vous lisiez bateau ?
Absolument, je lisais non seulement bateau, mais toutes les revues nautiques disponibles à ce moment-là, auprès de mes camarades ou dans les bibliothèques. Et effectivement, je rêvais de prendre le large et j'avais été particulièrement fasciné par ce projet de Tour du Monde. J'avais déjà lu les premiers ouvrages de Bernard Moitessier. J'avais lu ce qu'il écrivait dans la revue Bateau en préparant son tour du monde, et c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui, c'était un rêve, et un rêve particulièrement difficile à nourrir, je dois dire, parce que les informations, une fois le parcours lancé, était extrêmement rare. C'est aussi ça qui est intéressant dans cette aventure, c'est qu'elle témoigne d'une autre époque où l'information circulait très mal.
Parce que maintenant, on a la position des uns et des autres dans une course qui s'affiche sur son propre ordinateur. Il y a des vidéos des navigateurs dans leur cambuse. Et vous aviez des informations qu'il fallait aller chercher comme un escargot avec une épingle. Vous alliez à la bibliothèque municipale pour lire le Sunday Times.
Absolument, oui. C'est-à-dire que, par définition, la presse magazine mensuelle vous arrive alors que l'événement est déjà obsolète depuis plus d'un mois. Donc, vous essayez de vous rapprocher un petit peu plus de l'actualité en voyant la presse quotidienne. La presse quotidienne française n'en parlant pas. J'essayais de me rabattre sur la presse anglaise avec mes maigres moyens de compréhension de l'époque, mais sa parution étant très, très irrégulière, ça n'était pas évident. Oui.
Alors, des 9 concurrents, il y en a un qui est un peu votre favori, c'est le doyen, non ? Bill King, c'est le plus vieux, non ? 57
oui,
ans.
Il a 57 ans au moment de partir, et comme la plupart des autres, il n'a pas choisi de faire une course. Il avait envie, il souhaitait faire le tour du monde pour accomplir cette première, mais il n'était pas du tout prévu pour lui de participer à une course. Cette course a été, je dirais, improvisée. Après, c'est une récupération médiatique d'un journal anglais autour d'initiatives personnelles.
Enfin, si on regarde de près, vous le faites, la construction des bateaux, vous en donnez d'ailleurs un dessin à la fin de votre livre, 69, année héroïque. On voit que le bateau de Bill, il a été préparé, mis au point pendant un an. Le bateau de l'Italien, parce qu'il y a un Italien, il n'y a pas que des Britanniques, il y a 2 Français et un Italien. Alex, lui, il a été construit en 6 semaines. Il y a une grande disparité. Il n'y a pas d'alignement des bateaux les uns sur les autres.
Ah oui, c'était, disons qu'à la hauteur de la diversité des personnalités des concurrents, qui sont tous des aventuriers mais avec des aspirations différentes, leurs bateaux sont complètement différents. C'est-à-dire, 2 d'entre eux partent avec des voiliers en plastique de 9 mètres qui sont plutôt faits pour se balader le long des côtes bretonnes que d'aller au grand large. Et puis, à l'extrême inverse, Alex Caruso, dont vous parliez, l'Italien, s'est fait construire en un temps record un bateau qui fait près de 20 mètres de long et qui ressemble, lui, à un bateau de course.
Et il faut mettre un an de vivre.
Oui, c'est toute la difficulté de l'opération à une époque où le lyophilisé n'existe pas encore, où on n'a pas beaucoup de moyens de conservation. On sait que le voyage va durer très longtemps. C'est la première fois que des gens vont partir aussi longtemps sans poser le pied à terre. Et donc, ça risque de durer près d'un an. Et un an de vivre, c'est énorme. C'est-à-dire que certains le résolvent d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que Par exemple, Bill King, qui est lui ancien commandant de sous-marin reconverti dans l'agriculture bio en Irlande, part avec uniquement des graines et des produits végétaux. Il va se nourrir de ça pendant tout son voyage.
Oui, mais Robin que vous citiez, il aime bien le corned beef et il aime bien avoir un stock de cigarettes et puis beaucoup de vin. Et il peut plus se mouvoir sur son bateau.
Oui, il a un vrai menu, je dirais, de célibataire britannique, c'est-à-dire qu'il... il va remplir son bateau avec 1500 boîtes de conserve, dont 450 de cornet de beef, une caisse de whisky, une caisse de cognac, 120 bouteilles de bière.
Et ne pas oublier l'ouvre-boîte, je dis ça parce qu'un des concurrents l'a oublié. Et puis voici le départ, ils sont échelonnés donc sur 5 mois. Le dernier départ a lieu fin octobre, début novembre. Ici, vous ne parlez pas beaucoup de lui dans votre livre, vous le regrettez, le départ de Loïc Fougeron, vu par Laurent Charpentier. Il part en même temps que son ami Bernard Moitessier.
Je pense que nous sommes partis un jeudi. Et nous étions au mouillage à portée de voix l'un de l'autre. Et il m'a dit, t'as écouté la météo? Je venais de l'écouter. J'ai dit, bien sûr. Il me dit, bon, bien, tu as pareil, toi, vendredi? Je lui dis, non, en aucun cas. Il me dit, moi non plus. Les superstitions. Et nous avons appareillé, c'est un temps superbe. Et nous sommes partis ensemble, escortés par de nombreux bateaux, petits bateaux, petites vedettes, bateaux anglais, qui nous ont souhaité bonne chance sur tous les tons. Et puis, petit à petit, les derniers bateaux sont rentrés, nous sommes retrouvés seuls. Bernard était déjà très loin devant moi. Notre première nuit, nous avons eu de la brume. Très peu de vent et une brume à couper au couteau. Ça n'a été que des coups de sirène à droite, à gauche, devant, derrière. Enfin, des nuits que l'on n'aime pas parce qu'elles sont dangereuses. Le lendemain, sur le coup des 10 heures, le brouillard s'est levé. Le vent, un petit vent portant aussi. La course commençait sous de bons auspices.
Vous parlez de Chey, alors il sait à peine sortir d'un port. Il met les mains dans ses poches. Il ne veut pas qu'il y ait trop de gens autour de lui parce qu'il a peur que ça s'éprône entre les quais.
Ce n'est pas seulement qu'il ne sait pas sortir d'un port, il ne sait pas du tout naviguer. Il n'a jamais fait de voile auparavant. Il a pris quelques cours de voile juste avant de partir. Il s'est fait aider et des gens l'ont escorté pour l'aider à sortir du port et à gagner la haute mer. Il n'a aucune expérience, mais c'est un baroudeur, ancien militaire, commando, qui rêve de défis difficiles et qui se dit qu'il apprendra en cours de route.
C'est ce qui se produit, parce que mené par une bonne étoile, il arrive jusqu'au niveau de l'Afrique du Sud. Là, il est obligé de faire escale pour réparer. Et il ne comprend pas qu'il soit éliminé. Il a dit, moi, j'ai jamais signé d'engagement. Vous m'embêtez, je continue. Il va finir par abandonner. Alors, vous racontez tous les abandons. Votre favori?
Hélas, mon favori de tout à fait irrationnel, mais c'est parce que j'aimais bien la tête de son bateau. Il avait un bateau très original, plus léger que les autres. Et malheureusement, effectivement, il est victime au large de l'Afrique du Sud, alors qu'il rentre dans les fameux 40e rugissant, d'une tempête qui chavire son bateau et casse un de ses mâts, une vraie tempête cataclysme comme on en rencontre rarement, même dans ces coins-là. Et il lui est impossible de continuer, donc il se réfugie en Afrique du Sud.
Alors celui qui est le plus connu, c'est Bernard Moitessier, notamment à cause de ses livres, ceux qui sont parus avant, Le Vagabond des Mers du Sud par exemple, ceux qui sont parus après. On va l'entendre ici évoquer un fait un peu bizarre. Quand on prend un mauvais cap, les dauphins peuvent peut-être nous aider à restituer le bon cap. C'est une histoire, ça, c'est une légende.
Eh bien, non, parce que effectivement, Bernard Moitessier raconte cet événement qui lui est arrivé au sud de la Nouvelle-Zélande et où des dauphins l'ont aidé à se remettre sur le bon cap.
Dans sa voix. Mais vous avez fait l'expérience?
Cette histoire m'a tellement intrigué qu'un jour dans le Pacifique, passant près d'une barrière de corail et croisant un groupe de dauphins, je me suis dit, je vais faire la même chose que Moitessier. Je mets le cap sur la barrière de corail. Et ça n'a fait ni une ni deux. Les dauphins ont fait exactement le même manège qu'avec Moitessier pour me remettre sur le bon cap. Donc oui, c'est réel.
Il y avait une centaine de dauphins qui jouaient avec Joshua au début. et qui se sont mis à s'énerver. Ils passaient alors par bande de 20, de front, ils passaient à toute vitesse de l'arrière à l'avant du bateau, à toute vitesse, et quand ils atteignaient l'avant, ils viraient à angle droit et filaient sur la droite, à toute vitesse. Que je vais dire fera sourire et pas mal de gens peut-être, mais je me suis aperçu à ce moment-là que le vent avait tourné, sans que je m'en aperçoive, tout doucement, et que je me dirigeais tout droit vers les cailloux qui étaient à 7 ou 8 milles. Autrement dit, si j'étais retourné dans ma cabine, une heure plus tard, j'étais échoué, je perdais mon bateau. J'ai réglé les voiles et pris le bon cap, et à ce moment, les dauphins se sont calmés. Ils sont devenus normaux, et l'un d'eux a fait 3 sauts périlleux absolument extraordinaires. Et on aurait dit que celui qui a fait le saut périlleux était le chef de la bande, et que c'était comme un cri de joie qu'il lançait.
Si vous deviez faire une émission en télé ou radio, s'il y a de la musique, que ce soit la Paloma, vous savez, la Paloma toute simple, hein, pas un rythme de cinglé, quoi, toute simple comme il l'a joué, comme les matelots l'a joué sur les cavelles, et vous en jouez un passage à l'harmonica.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
La première course autour du monde en solitaire, sans escale, avec Olivier Le Carrère, 69, année héroïque chez Paulsen. Alors on se souvient qu'Apollo est revenu sagement le 13 mars 69. Et Moitessier, lui, parvenu devant la ville du Cap, a lancé un message au lance-pierre sur un cargo pour dire « Ben non, je ne finirai pas mon parcours, je ne rentre pas en Angleterre, je pars de nouveau, je rebondis. » Stupéfaction sur France Inter le 20 mars.
La radio sud-africaine a lancé hier soir un appel au navigateur français Bernard Moitessier, qui est passé mardi dans la baie du Cap, pour qu'il renonce à son projet de second tour du monde et regagne l'Angleterre comme prévu. Madame Moitessier avait également adressé à la radio nationale sud-africaine, avec l'espoir qu'il serait entendu par son mari, le message suivant. Françoise Moitessier informe son mari qu'il se trouve en tête dans la course autour du monde. Tous en France comme en Grande-Bretagne attendent l'arrivée du Joshua à Plymouth. Très surprise, ne comprend pas pourquoi décide changement itinéraire. Enfin, dans les milieux nautiques sud-africains, la stupéfaction règne à la fois devant la décision et l'audace du navigateur français.
Quand on arrive à un certain point, la curiosité n'a plus rien à foutre dans l'histoire. Disons que c'est de la vie, simplement. Oh, c'est drôlement difficile à vous expliquer. Et puis tout ça, c'est quand même un peu flou, vous voyez. Pourquoi je continue exactement, hein? C'est pas ma curiosité. Toutes les dettes sont payées et ça devient formidable. Alors vous voyez que je rentre maintenant, mais mon Dieu, mais ce serait la dernière des folies.
Ce serait la dernière des folies de rentrer pour déchiffrer mieux ce que pensait Moitessier. Il faut lire ce qu'il a écrit sur ce retour différé. Les plus belles pages, parmi les plus belles pages écrites sur la mer, dites-vous.
Oui, c'est vraiment... Moitessier a une place unique, je dirais, dans la littérature maritime, puisqu'il a vraiment décrit la vie en mer avec un talent incroyable, et il est le premier à avoir présenté la mer non comme une ennemie, mais comme un, comme un lieu où on se sent bien, comme un lieu où on peut vivre en harmonie. Bon, ce qui évidemment s'applique pour lui, mais ne s'applique pas forcément pour le commun des mortels.
Et on est dans l'atmosphère d'après mai 68 aussi. Il se revendique enfant de mai 68 et il dit « la mer c'est le Gange ». On se plonge dans le Gange et on change.
Oui, il le dit tout en avouant qu'il ne l'a pas encore tout à fait trouvé et que justement il veut continuer à naviguer encore plus loin pour le trouver, ce Gange.
Alors les abandons se comptent sur les doigts de plus d'une main. Moitessier a décroché. Il y a deux systèmes de récompenses. Hein, celui qui arrive le premier, celui qui est le plus rapide. Alors celui qui va arriver le premier, ben voilà que Robin, l'homme au bateau très chargé de victuailles, on le croyait disparu, hein.
Oui, il n'a pas donné de nouvelles pendant 4 mois puisqu'il avait un problème de radio, et ce qui fait qu'on l'a vraiment cru disparu un moment. On avait lancé des avis de recherche auprès de tous les navires, et il est réapparu miraculeusement au milieu de l'Atlantique.
Et il arrive, c'est lui qui arrive, le premier, on va voir qu'il va arriver le seul, le 22 avril 1969.
On dry land for the first time in 312 days. Commodore, Mr. Philip Fox.
Bon, c'est pas celui que vous préfériez, mais comment avez-vous appris la chose? Avec beaucoup de temps, de distance? Non, là, quand on arrivait au moment de la fin, les médias en parlaient.
Oui, les médias commençaient à en parler. Alors, effectivement, cette archive sonore, elle n'est pas arrivée en France directement, mais c'est vrai que j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention et de fascination, et je dirais encore plus. C'est une fascination qui s'est encore accrue au fil des lectures plus tard, en relisant les textes qu'avait écrit Robin dans son journal. On réalise vraiment à quel point ce qu'il a fait est incroyable. C'est-à-dire, c'est une des dernières grandes aventures du XXe siècle. C'est quelque chose qui se rapproche davantage de ce qu'avait fait Edmund Hillary sur l'Everest ou Charles Lindbergh sur l'Atlantique que d'une épreuve sportive classique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Alors reste le deuxième prix, celui qui sera accordé au plus rapide. C'est Nigel Tetlake qui devrait, en principe, l'obtenir, parce qu'il y a bien quelqu'un qu'on a vu réapparaître tardivement, lui aussi, Donald Crowhurst, qui pourrait concourir, mais il est à 3 ou 4 semaines, et puis son retard ne fait que s'aggraver sur Nigel Tetlake. Jusqu'au moment où, le dit Nigel Tetlake, démate et sauvé de justesse. Et l'agent de communication de Donald le joint alors sur un ton triomphant.
Donald, Donald, remerciez-moi mon ami. C'est votre jour de triomphe. Tetlake a dématé.
Tetlake a dématé.
Rassurez-vous Donald, un tanker l'a récupéré à temps, c'est l'essentiel. Public s'est enfin rendu compte que vous étiez de véritables aventuriers. Vous ne serez que 2 à avoir réussi cet exploit, Donald. 2 Knox Johnston et vous. Il me faudra votre journal de bord. Le Times a confirmé leur publication avec vos témoignages. Donald, vous n'êtes plus un homme ruiné. Vous êtes un homme riche et célèbre. Je vous passe clair.
Claire, c'est sa femme. Il a 4 enfants, extraits du documentaire Une route 100 km. Il n'a pas l'air enthousiaste, Donald.
Non, parce que cette nouvelle qui en fait n'est pas un dématage, comme le dit cette petite fiction, mais un vrai naufrage, c'est-à-dire que le trimaran de Nigel Tetlake a fait naufrage au large des Açores. Donc la disparition du second de la course fait que c'est lui qui va arriver triomphalement, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas assumer, pour la simple raison qu'il n'a pas fait le vrai parcours, contrairement à ce qu'il a annoncé dans ses messages radio. Il est resté pendant tout le temps de cette épreuve, au milieu de l'Atlantique, a tourné en rond et même a accosté en Amérique du Sud pour faire des réparations.
Il n'a vu aucun des 3 caps.
et il n'a vu aucun des trois caps. C'est un, oui, à ce stade, c'est un affabulateur qui n'a pas fait le parcours, qui a menti sur sa route, et donc quand il se rend compte que c'est lui qui va remporter la prime du bateau le plus rapide d'une façon totalement injuste, immorale, il ne peut pas le supporter.
Donc c'est pas un banal tricheur.
Absolument, absolument. Ça n'est pas un banal tricheur. Je pense qu'il n'a jamais vraiment voulu tricher. Il s'est trouvé entraîné dans une spirale du mensonge qui l'amène à cette espèce d'impasse où il ne peut plus rentrer et il ne peut pas supporter de recevoir ce triomphe qu'il ne mérite pas.
Comme quoi, il ne faut pas temporiser en mer. Il a trop temporisé.
Exactement, il a trop temporisé. Il aurait dû abandonner dès le début parce que son bateau n'était pas prêt. Il avait de bonnes raisons pour le faire et il a temporisé, et rendant son mensonge de plus en plus difficile à assumer.
Et quand même, son personnage joue beaucoup dans la légende de ce premier tour du monde en solitaire, sans escale. Peut-être peut-on terminer avec les propos de sa femme, de sa veuve, Claire, qui était citée tout à l'heure. « Mon mari avait coutume de dire qu'un homme ne peut être heureux s'il n'a pas essayé. » Et vous vous souvenez de ce qu'elle ajoutait après ?« Ce qui m'aide le plus dans le moment difficile que je passe, parce que mon mari maintenant, pour un temps, paraît couvert de honte, c'est de penser qu'il a été libre d'essayer. » C'est une devise pour vous, ça.
C'est une très belle formule, oui.
Olivier Le Carrère, 69, année héroïque chez Paulsen, et on vous retrouve au festival Étonnant Voyageur qui commence dans la bonne ville de Saint-Malo.